France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Comment développer les transports et infrastructures de demain ? À Marseille, François Bayrou fait le constat d'un modèle de financement à bout de souffle et d'un manque d'équité territoriale. Compte rendu dans un instant de Hakim Kasmi. De belles déclarations, mais des moyens modestes pour tenter d'attirer des scientifiques sur le vieux continent. Nous ferons le point avec Mathieu Laurent sur les annonces faites à la Sorbonne à l'occasion de l'initiative Choose Europe for Science. 80 ans après la libération des camps nazis, une enquête s'ouvre en Espagne sur la mort de plusieurs milliers d'Espagnols dans des camps d'extermination. Ils avaient été déportés depuis la France où ils avaient fui la dictature franquiste. Nous irons à Madrid. Et puis Reporters sans frontières a organisé l'exfiltration en France de la journaliste et critique de cinéma russe Ekaterina Barabash, récit d'Étienne Monin. Dans un contexte de budget contraint, très contraint, comment imaginer l'avenir des transports et des infrastructures ? On sait qu'il faut décarboner les déplacements, on sait aussi que la dégradation des infrastructures, les routes, les ponts, les gares s'accélère avec le changement climatique. Le Premier ministre a lancé depuis Marseille les travaux d'Ambition France Transport, une conférence qui se penche sur le financement des transports, la mobilité routière, le ferroviaire et le fret, et qui doit rendre ses conclusions fin juillet. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Vous avez suivi l'intervention de François Bayrou, conscient des besoins et de l'insuffisance des moyens.
Oui, avec des caténaires qui ont une moyenne d'âge de 65 ans et 50% des chaussées qui sont en mauvais état en France, la tâche est considérable mais nécessaire pour régénérer nos infrastructures, indiquait François Bayrou, qui espère ainsi réduire d'une part les émissions de CO2 qui représentent 30% rien que pour les transports en France et d'autre part les inégalités territoriales entre les grandes villes qui bénéficient très souvent du TGV, de la grande vitesse, et les villes moyennes et surtout rurales qui souffrent d'un manque d'infrastructures ferroviaires qui, lorsqu'elles existent, elles aussi sont bien souvent en très mauvais état. Résultat, dans ces secteurs, en zone rurale particulièrement, un Français sur trois a déjà refusé une offre d'emploi faute de moyens de transport. Alors, si concrètement, le Premier ministre a bien confirmé les 26 projets de centres express régionaux métropolitains pour un montant de 100 milliards d'euros dans les prochaines années, c'est l'équivalent de nos RER en région parisienne, ainsi que la ligne de train Marseille-Briançon pour les Jeux d'hiver de 2030 en France, il a indiqué qu'au vu des économies budgétaires que doit réaliser le gouvernement, environ 40 milliards d'euros à trouver, les collectivités locales et territoriales, ainsi que les acteurs privés, comme les entreprises, devront également participer au financement de ces infrastructures ferroviaires et routières. Enfin, le Premier ministre compte aussi sur la fin des concessions des autoroutes à partir de 2031 pour récolter de l'argent frais pour ces projets, des projets qui devront être également plus verts, ce qui passera aussi, Aurélie, par le développement de la voiture électrique sur nos routes.
Hakim Kasmi, a-t-on les moyens de nos ambitions ? La France et l'Union européenne ouvrent grand les bras aux scientifiques du monde entier, et en particulier aux chercheurs dont les travaux sont menacés aux États-Unis, compte tenu des coupes budgétaires massives décidées par Donald Trump. Mais l'appel lancé depuis la Sorbonne à Paris sera-t-il entendu ? Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont présenté la France et l'Europe comme un refuge et annoncé une série de mesures.
Oui, face au diktat de Donald Trump et de ses affidés, Ursula von der Leyen brandit une enveloppe de 500 millions d'euros pour la période 2025-2027 en affichant sa volonté d'inscrire la liberté de la recherche scientifique dans le droit au moyen d'un nouvel acte législatif sur l'espace européen de la recherche. De son côté, l'État français va investir 100 millions d'euros supplémentaires financés par une réserve du programme d'investissement public France 2030 qui n'était jusqu'ici pas affecté, et chacun dans leur périmètre d'associer les forces privées à leurs impulsions. Bruxelles ambitionne de sceller une toute première loi européenne sur l'innovation en faveur des start-up et des entreprises en expansion, quand Paris appelle les entreprises au cofinancement de l'effort à venir.
Alors Mathieu, ces annonces étaient guettées par le mouvement Stand Up for Science qui est né début mars en réaction à l'offensive de Donald Trump contre les sciences aux États-Unis. Comment ce mouvement réagit-il aux déclarations du jour ?
Eh bien, les sommes et dispositifs avancés n'ont pas laissé indifférents les membres de Stand Up for Science. Ce n'est pas comme si la science, à vif, n'était pas particulièrement fragilisée par un sous-financement chronique. Anaïs Fèvre-Berthelot est maîtresse de conférence à Rennes 2 en études anglophones, spécialiste des États-Unis.
100 millions, c'est même pas ce qui manque à l'enseignement supérieur et à la recherche en France. Cette annonce vient à la suite d'annonces de coupes budgétaires massives. 15 jours avant, on a annoncé une coupe de 400 millions. C'est vraiment juste un effet d'annonce. La dimension symbolique est importante. Il aurait été catastrophique de ne rien faire, de ne rien dire. Donc, c'est mieux que rien. C'est à peine mieux que rien.
Particulièrement ciblées, les sciences humaines et sociales, considérées comme les oubliées de cette humble arche de Noé européenne. Andréotti Bruno Andréotti est physicien, professeur à l'université Paris-Cité. Il pointe un manque par ailleurs, s'agissant d'un élémentaire devoir de solidarité que l'État français devrait remplir.
Pour l'accueil des collègues aux États-Unis, il y a une dimension très choquante, c'est le fait que les sciences humaines aient été supprimées et que ça soit effectivement fléché dans un moment où, par ailleurs, il y a le programme PAUSE qui existe. Le programme PAUSE, c'est réellement les scientifiques menacés dont le budget a baissé de 60% cette année, n'a pas été recrédité dans les annonces aujourd'hui.
Ni les uns ni les autres parmi les représentants de Stand Up for Science n'ont regretté de ne pas être invités sous la coupole du grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'éloquence bon teint des orateurs de la matinée leur laisse plutôt un goût amer.
Merci Mathieu Laurent. Et donc la France cherche à renforcer son attractivité auprès de chercheurs dans des domaines spécifiques, on l'aura bien entendu, par exemple l'énergie, le spatial, le numérique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Christy Piquiquero, professeure d'histoire française à l'université George Mason près de Washington, ne candidatera probablement pas à un poste en France.
J'enseigne l'histoire de la France et de Haïti, de la diaspora africaine, des afro-payens. J'étudie aussi l'esclavage, l'impérialisme, la colonisation et la décolonisation et leur prolongement contemporain. Donc, il faut dire que depuis des décennies, les chercheurs français qui travaillent sur ces sujets ont souvent fui l'hostilité ambiante. Aujourd'hui, encore, des intellectuels comme Mabula Soumarouro ou des journalistes comme Rokhaya Diallo sont poursuivis en justice en France pour avoir osé engager des débats cruciaux sur les discriminations. C'est aussi pour cela que la France connaît sa propre fuite de cerveau. Donc, si la France veut réellement être un leader mondial en science, elle doit valoriser l'ensemble des recherches scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, ce faisant s'engager pleinement en faveur de la liberté intellectuelle et académique dans toute sa diversité. Donc, en fin de compte, quand je pense aux efforts actuels de Macron et du gouvernement français, Macron promet de garantir les libertés académiques aux chercheurs réfugiés. Et moi, je me pose la question, si je viens en France avec mes sujets de recherche, est-ce que mes propres libertés académiques seront protégées ou attaquées?
Christy Piquiquero répondait à Julie Paco. Emmanuel Macron est attendu ce soir à la Grande Loge de France. Ce sera la première visite d'un président de la République en exercice à la deuxième obédience maçonnique dans l'Hexagone après le Grand Orient de France, le Grand Orient qui a reçu le chef de l'État en novembre 2023. Ce soir, Emmanuel Macron doit prononcer un discours sur la laïcité dans le cadre du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. La franc-maçonnerie fait depuis des siècles l'objet de théories du complot. En réalité, souligne l'historien Pierre-Yves Beaurepaire, elle n'a pas les relations de proximité avec le pouvoir qu'on continue de lui imputer.
Même sous l'Ancien Régime, les francs-maçons espéraient au début de l'implantation de la maçonnerie que Louis XV deviendrait l'un des leurs. Napoléon place ses frères, ses beaux-frères et ses proches à la tête de la franc-maçonnerie. Le sommet de l'influence, c'est clairement la Troisième République et ça décline à partir de la Libération jusqu'à aujourd'hui, même si la franc-maçonnerie s'efforce d'être une force de proposition, de faire passer un certain nombre de messages.
Comment vous qualifierez les relations entre Emmanuel Macron et les francs-maçons ?
Je dirais respectueuse, sans affinité particulière. Cette visite, elle s'inscrit dans une tradition d'assez long terme en France. Et si on retient juste les 3e, 4e et 5e républiques, il y a une proximité de la franc-maçonnerie avec l'idée de république, avec les institutions liées à la République et que ça se fait dans ce cadre-là. Puis aussi dans le cadre de tous les débats autour de la laïcité, puisque c'est dans ce cadre-là que la visite a lieu, tout simplement parce que les francs-maçons, avec des sensibilités très variables d'une obédience à l'autre, ils s'inquiètent de ce que on puisse saper un certain nombre de valeurs républicaines et notamment celle de la laïcité.
L'historien Pierre-Yves Beaurepaire, joint par Mercia Nezic. 3 mois et demi après la séquestration de David Ballan, figure des crypto-monnaies, le père d'un homme ayant fait fortune dans le secteur a été libéré samedi soir lors d'un assaut de la police, 58 heures après son enlèvement. L'intérêt pour les crypto-monnaies n'est plus limité aux seuls pirates informatiques, mais semble attirer les organisations criminelles qui souhaitent se passer d'intermédiaires pour percevoir des rançons, avec une montée dans la violence, puisque dans ces deux affaires, les victimes ont eu un doigt sectionné. Anne Fauquemberg a joint le colonel Bertrand Michel, commandant en second de l'unité nationale cyber de la gendarmerie qui a mené les investigations cyber dans l'affaire David Ballan. Écoutez son analyse.
Seuls les rapprochements judiciaires permettront d'affirmer que nous avons face à nous les mêmes organisations qui vont commanditer et réaliser plusieurs actes de la même manière. Il est beaucoup trop tôt pour aller sur ce terrain-là. En revanche, il est clair qu'il y a une sorte de phénomène où les personnes qui sont dans ce monde de la crypto sont particulièrement visées. La violence qui transparaît dans ces dossiers-là, pour moi, est davantage le reflet d'une évolution de la violence au sein des groupes criminels organisés. On le voit quasiment toutes les semaines en matière de trafic de stupéfiants. On le voit aussi dans ces dossiers d'enlèvement et séquestration où l'atteinte physique est quelque chose qui est devenu vraiment consubstantiel avec une action liée à la criminalité organisée. D'ailleurs, on retrouve dans ces deux grands types de contentieux, les stupéfiants et les enlèvements et séquestration, finalement un certain nombre d'éléments communs, notamment dans la segmentation des rôles dans des organisations qui sont importantes, avec des donneurs d'ordre, des gens qui sont en charge de l'exécution, des gens qui sont chargés plutôt du volet crypto. Et donc, on a beaucoup de points communs qui montrent bien l'ancrage dans la criminalité organisée de ce type d'équipe.
Après le déferlement de messages haineux subi par Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, les 7 personnes poursuivies se sont vues infliger des peines d'amende et de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. En Roumanie, le second tour de la présidentielle le 18 mai sera scruté très attentivement depuis Bruxelles et Washington. C'est le candidat d'extrême droite, Georges Simion, trumpiste assumé, qui est arrivé premier du scrutin hier avec près de 41% des voix. Il affrontera dans 2 semaines le maire centriste de Bucarest, Nicu Șordan, qui a arraché sa qualification avec moitié moins de voix. Ce candidat indépendant séduit dans les grandes villes un électorat pro-européen. Virginie s'est rendue devant la mairie de Bucarest où le candidat est venu hier soir remercier ses équipes.
Sur une estrade, dans un parc qui fait face à l'imposante mairie de Bucarest, Nicu Șordan, 55 ans, est venu remercier ses électeurs. Parmi la foule, beaucoup de jeunes, mais aussi des actifs, des retraités. Leur point commun, une envie de changement pour la Roumanie. Nicu Șordan, parfait francophone qui a fait des études de mathématiques à Paris, s'est fait élire à Bucarest la première fois en 2020. Il a été réélu l'année dernière. Nicolae, 34 ans, est venu de Timișoara soutenir son candidat.
C'était dur pour lui de devenir maire de Bucarest, mais il l'a fait. Il a pris cette décision de se présenter au présidentiel, même si sa passion est Bucarest. Et donc il s'est porté pour la cause d'avoir une Roumanie démocratique, vu les dangers de l'extrême droite qu'on a eu. Donc moi, personnellement, je suis très content qu'il va rentrer au deuxième tour et je suis très confiant qu'il va la remporter aussi.
Johanna, 31 ans, est tout sourire. Son bébé est endormi dans sa poussette. Elle se dit rassurée pour son avenir.
Je suis venue avec le plus jeune militant de M. Nicu Șordan. Il est au deuxième tour. On espère que ça se passera bien. L'espoir, c'est ce qui fait vivre.
Nicu Șordan a rassemblé 21% des suffrages contre 41% pour le candidat d'extrême droite, George Simion. Impossible de dire aujourd'hui quelle direction prendra la Roumanie à l'issue du second tour. Les partisans de Nicu Șordan ont prévu une grande manifestation à Bucarest ce vendredi 9 mai pour la Journée de l'Europe.
Virginie Pironon à Bucarest et le Premier ministre roumain, le social-démocrate Marcel Ciolacu, tire les conséquences du scrutin d'hier et annonce sa démission. En octobre 2022, Reporters sans frontières avait organisé l'évasion de la journaliste russe Marina Ovsianikova, qui avait brandi une pancarte anti-guerre à la télévision d'État. Eh bien, l'ONG a réitéré son exploit en aidant une autre journaliste russe à s'enfuir au nez et à la barbe des services secrets de Vladimir Poutine. Depuis février dernier, Ekaterina Barabash était assignée à résidence, accusée d'avoir critiqué la guerre en Ukraine. Elle s'est enfuie au péril de sa vie et a pu rejoindre la France la semaine dernière, Étienne Monin.
Derrière ses lunettes fantaisie, Ekaterina Barabash revient sur ce petit matin de mi-avril quand elle a décidé de passer du statut de journaliste russe persécutée à celui de fugitive.
Ça a été la décision la plus difficile de ma vie, vous savez. Ça a été un sentiment horrible. parce que j'ai compris que j'allais tout perdre.
Sa fuite ensuite ressemble à un polar. Elle a été épaulée par un réseau. Elle a dû rester cachée pendant 2 semaines. Elle a entre autres fait sauter le bracelet électronique que le tribunal lui avait imposé pour son assignation à résidence.
Je suis sortie de ma maison avec une capuche noire, des lunettes noires et une espèce de perruque. Et ça a été le début de mon aventure.
Dans l'opération, Reporters sans frontières a servi de port d'attache en France. Thibault Brutin, le directeur général, estime que cette arrivée est un signe d'espoir dans un contexte de répression de la presse en Russie.
Les lois scélérates qui ont été passées, qui viennent réprimer la presse, limiter son expression, sont des lois qui ont mis un terme à la résidence formidable des journalistes russes au sein de la Fédération de Russie. C'est pour ça qu'il y en a tant qui ont pris le chemin de l'exil. Mais ceux qui restent sont coincés, pris au piège.
En Russie, Ekaterina Barabash était critique de cinéma. Elle a été poursuivie pour 4 publications ouvertement opposées à la guerre en Ukraine. D'après RSF, 38 journalistes sont aujourd'hui détenus par Moscou.
Étienne Monin. Après avoir mobilisé des dizaines de milliers de réservistes, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan visant à étendre l'offensive menée contre le Hamas dans la bande de Gaza et à prendre le contrôle du territoire. Une telle opération ne serait cependant pas lancée avant la visite du président américain au Moyen-Orient prévue la semaine prochaine. D'après le gouvernement israélien, ce délai pourrait laisser la porte ouverte à des négociations sur un cessez-le-feu et un accord de libération des otages encore détenus dans l'enclave. En Espagne, l'entreprise Telus, chargée de modérer une partie des contenus publiés sur Facebook et Instagram, va supprimer plus de 2000 posts à Barcelone. C'est la conséquence de la rupture du contrat qui l'a lié à leur maison mère, le groupe Meta. Précision de Henri de Laguerie à Barcelone.
Accès au réseau informatique coupé, compte email déconnecté, les 2059 employés du plus important centre de modération en Europe de Facebook et Instagram ont appris de façon brutale leur licenciement. Dany, un employé au micro de la chaîne BTV.
On était censé aller bien, les résultats de l'entreprise étaient bons soi-disant. Donc on a l'impression qu'ils nous ont menti, on ne sait pas ce qu'il s'est passé en fait.
Ce plan social intervient alors que leur employeur, le sous-traitant canadien Telus, a perdu le contrat qui le lie au groupe Meta. En janvier, Mark Zuckerberg avait annoncé des changements dans la politique de vérification de contenu de ses réseaux sociaux. Objectif, satisfaire l'administration Trump. Trop de contenu était censuré alors qu'il n'aurait pas dû l'être, avait précisé le patron américain. Mais la fermeture du centre de Barcelone s'explique peut-être aussi par les conditions de travail sur le site, obligé d'examiner des contenus d'une violence extrême. Une 20aine d'employés ont porté plainte contre Telus. Sous couvert d'anonymat, un ex-employé raconte ce quotidien.
Moi, j'ai dû prendre un arrêt l'année dernière pour des contenus à répétition de pédopornographie. Et même si on signe en sachant que ça peut arriver, on n'est jamais prêt à voir ce genre de choses. Ça a une influence sur votre sommeil, ça a une influence sur votre vision du monde. Ça peut jouer sur la vie à la maison, sur la vie en dehors. On voit le monde d'une manière extrêmement négative.
L'an dernier, la justice a reconnu le traumatisme d'un modérateur comme une maladie professionnelle. Telus a été condamné à une amende de 41 000 euros.
L'Espagne se penche sur son passé. En ce jour du 80e anniversaire de la libération du camp nazi de Mauthausen, le parquet espagnol a ouvert une enquête. Il cherche à savoir quelles étaient les responsabilités de l'Espagne franquiste dans la déportation de milliers de ses ressortissants et dans leur internement dans des camps de concentration nazis. La correspondance de Mathieu de Taillac.
C'était des républicains, des vaincus de la guerre civile. Ils avaient passé la frontière vers la France pour tenter d'échapper à la répression des vainqueurs franquistes. Mais ils tombèrent dans les mains des nazis, quelques 7000 furent déportés dans le camp de Mauthausen et 4435 y sont morts. Pour la première fois, le parquet espagnol ouvre une enquête qui doit établir les responsabilités et l'existence d'une possible stratégie conjointe entre la dictature franquiste et le nazisme. Avant même les ralphes des juifs en France, la toute première arrestation massive concerne ces Espagnols passés en France et détenus à Angoulême. Diego Martínez López, historien spécialisé à l'université Francisco de Vitoria, a expliqué l'histoire du convoi d'Angoulême à la radio publique espagnole.
C'est un convoi de civils qui est arrivé à Mauthausen le 20 août 1940. Sur les 927 passagers, 430, tous les hommes de plus de 14 ans, sont internés dans le camp. C'est un cas paradigmatique parce que les autorités allemandes avaient parfaitement informé le régime franquiste et ce dernier a répondu par le silence. Ils n'ont absolument rien fait pour que ceux qui sont restés à Mauthausen puissent sortir du camp.
8 décennies plus tard, la justice espagnole se saisit de l'affaire, encouragée par une loi mémorielle qui doit aider à réhabiliter les victimes du franquisme.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. La météo, demain le temps sera calme et ensoleillé au nord et près de la Méditerranée. Ailleurs, du sud-ouest au centre-est, le ciel sera chargé avec des ondées éparses dès le matin, plus fréquentes l'après-midi. Il fera de 5 à 12 degrés au petit matin. L'après-midi, les températures atteindront 13 à 19 degrés, jusqu'à 24 près de la Méditerranée.